Bonjour, je vous embarque pour un dernier rendez-vous. Un rendez-vous avec des textes, des beaux textes, écrits sur le retable d'Isenheim. Je commence par celui écrit par Joris Karl Huysmans, « Trois églises et trois primitifs » qui a été publié en 1908 à Paris. Là, dans l'ancien couvent des Unterlinden, il surgit, dès qu'on entre, farouche, et il vous abasourdit aussitôt avec l'effroyable cauchemar d'un calvaire. C'est comme le typhon d'un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ, énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée, installé dans la vieille église désaffectée du cloître. La scène s'ordonne de la sorte. Au milieu du tableau, un Christ géant, disproportionné si on le compare à la stature des personnages qui l'entourent, est cloué sur un arbre mal décortiqué, laissant entrevoir par place la blondeur fraîche du bois et la branche transversale tirée par les mains plie et dessine ainsi que dans le crucifiement de Karlsruhe la courbe bandée de l'arc. Le corps est semblable dans les deux œuvres. Il est livide et vernissé, ponctué de points de sang, hérissé tel qu'une cosse de châtaigne par les échardes des verges restées dans les trous des plaies. Au bout des bras, démesurément longs, les mains s'agitent, convulsives et griffent l'air. Les boulets des genoux rapprochés cagnent et les pieds, rivés l'un sur l'autre par un clou, ne sont plus qu'un amas confus de muscles sur lequel les chairs qui tournent et les ongles devenus bleus pourrissent. Quant à la tête, cerclée d'une couronne gigantesque d'épines, elle s'affaisse sur la poitrine qui fait sac et bombe rayée par le gril des côtes. Ce crucifié serait une fidèle réplique de celui de Karlsruhe, si l'expression du visage n'était autre. Jésus n'a plus en effet ici l'épouvantable rictus du tétanos. La mâchoire ne se tord pas, elle pend, décollée, et les lèvres bavent. Maintenant voici un extrait d'un texte écrit par Martin Buber, qui l'a écrit dans « Événements et rencontres ». Qui sont consacrés effectivement au retable et qui datent de 1917, publié à Leipzig. Le retable, il est l'autel de l'esprit dans notre monde occidental et Colmar rayonne comme Bénarès, car seul en découvre l'accès véridique, le pèlerin qui est interpellé dans cette langue. Comme tous les grands ensembles du passé, ce retable a été désassemblé à l'aube de notre époque. Alors qu'il était encore intact, parce que c'est de lui que l'on s'approchait en tout premier, on le voyait fermé, et sur ses volets clos, la crucifixion. Dans cette représentation, le corps exaspérément torturé et les doigts raidis des mains clouées, un Christ s'expose devant la nuit du monde. À son côté, un précurseur rouge, qui, tel un gigantesque camelot, le montre du doigt en récitant son boniment, et à l'opposé, un disciple à l'équilibre instable, flamerolle d'un feu follet, devant lequel deux femmes sont disposées, les deux femmes telluriennes, les deux âmes de la terre, Marie debout et Marie-Madeleine à genoux. C'est alors que les volets s'ouvrent, enclavant les intérieurs de leur verso. Telle une fleur, le retable s'épanouit. La résurrection, c'est là à l'unisson la nuit et le jour du monde, en plein espace stellaire, un immense soleil qui serait gorgé d'une sève irrésistible se dilatant d'un foyer de lumière jaune par-delà des auréoles de rayons rouges jusqu'à la limite bleutée qui se prolonge dans l'obscurité, s'y élevant au zénith, au-dessus du tombeau béant qui la disjoint et des gardes terrassés, lui-même bordé d'aurores naissantes, de gros temps violents, des éclats de la foudre et du pur azur des immensités célestes. Voici le ressuscité, tout de couleur incandescente, de son visage solaire jusqu'aux humbles roses de ses pieds. Et enfin, un texte rédigé par Elias Canetti, qu'il a écrit entre 1921 et 1931, et qui est un extrait de l'histoire d'une vie, le flambeau dans l'oreille. Je suis resté à Colmar une journée entière devant le retable. Je ne savais plus quand j'étais arrivé et je ne savais plus quand je repartirais. Lorsque le musée ferma, je souhaitais devenir invisible pour pouvoir y rester toute la nuit. Je regardais le corps du Christ sans trop souffrir. L'état de ce corps m'apparaissait vrai, et devant cette vérité, je prenais conscience de ce qui m'avait gêné dans les crucifixions, leur beauté, la sublimation qui s'y manifeste. La sublimation est le fait des concerts d'anges, et non de la crucifixion. Ce dont on serait détourné avec horreur dans la réalité, on pouvait encore le saisir dans ce tableau, un souvenir des choses horribles que les hommes s'infligent les uns aux autres. En ce printemps 1927, la guerre, les gaz asphyxiants étaient encore assez proches pour rendre ce tableau crédible. Peut-être la tâche essentielle de l'art a-t-elle été trop souvent oubliée. Il ne s'agit pas de purifier, de consoler, de faire comme si tout allait bien se terminer, car les choses ne se terminent pas bien. Peste, ulcère, torture, terreur. Une fois la peste vaincue, nous avons imaginé plus horrible pour la remplacer. Que peuvent encore vouloir dire ces illusions consolantes devant cette vérité toujours égale à elle-même et qu'il faut toujours garder à l'esprit? Toute l'horreur qui est à notre porte est anticipée ici. Le doigt de Saint Jean, un doigt immense, la désigne. Cela est, cela sera de nouveau. Et que signifie l'agneau dans ce paysage? Cet homme qui pourrait sur la croix être l'agneau. A-t-il grandi? Est-il devenu homme pour être crucifié, pour être appelé l'agneau ?